7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment parler de son corps quand on a une vingtaine d'années? C'est précisément un âge où le corps est très important. Alors il y a la vie sexuelle, il y a les règles, il y a aussi parfois les agressions sexuelles, l'homosexualité, l'excision, enfin des réalités qui sont indéniables, abordées au mieux dans l'anonymat d'Internet et après. Après, eh bien, notamment sur le continent africain, les débats sont souvent confisqués par des enjeux politiques. Pour en parler, je reçois deux femmes qui utilisent l'écriture ou les réseaux sociaux pour libérer une parole sur un sujet essentiel. Bonjour Sandrine Nagertiga.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes entrepreneuse, blogueuse franco-tchadienne. Vous avez lancé en 2017 le hashtag Régler comme elle pour dénoncer les tabous des règles en Afrique. Alimata Fofana, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été enseignante en région parisienne. Vous avez publié Mariama l'écorchée vive aux éditions Cartala, un roman d'inspiration autobiographique. Et quant à vous, les voisines et les voisins, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités. Chez vous, avec qui vous parlez finalement de votre corps? Avec les parents, avec les grands frères, avec les grandes sœurs, avec les amis? Quels sont les vrais tabous aujourd'hui autour du corps? Et comment proposer un débat acceptable pour tous? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous contacter. En fin d'émission, allez, on aura un peu de respiration, notre reporter Inès Edel Garcia nous propose une balade à l'aube pour redécouvrir sa ville. Un peu comme un nouveau rituel, ou comment on peut se reconnecter avec son corps en marchant très très tôt le matin. Voilà, ça sera à la fin de l'émission et pour l'heure, bien sûr, vous nous téléphonez au 33 1 84 22 71 71, le corps, les jeunes et les tabous. Alors il y a d'abord, c'est vrai, l'apparence physique aussi de son propre corps. Hervé à Yaoundé nous envoie ce message. Les jeunes évitent de parler de tout ce qui touche au corps parce qu'ils sont sensibles au discours moral de la famille, des amis, de la société. Ils ne veulent pas avoir l'impression qu'à cause de leur corps, ils ne sont pas appréciés ou acceptés par les autres. Et c'est vrai, hein, que c'est un âge où d'abord on veut être accepté par les autres. Aujourd'hui, nous dit Hervé, je me sens bien dans mon corps, mais quand j'étais plus jeune, des remarques comme « tu as pris du ventre, tu as pris du poids » me donnaient l'impression que mon apparence physique n'était pas appréciée. Ça me donnait aussi l'impression d'être coupable de quelque chose. Ça vous évoque quelque chose, ça, vous aussi, Alimata, Sandrine, là-dessus, sur tout simplement l'apparence physique?
Bah, je pense que oui, déjà l'adolescence, ou en tout cas la jeunesse, c'est déjà un changement corporel, comme vous l'avez dit Emmanuel. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand on n'est pas préparé en amont à ce changement-là qui va venir complètement chambouler notre vie. C'est quelque chose qui effectivement, quand on n'est pas préparé, c'est un peu difficile, donc c'est tout à fait normal. Mais après, quand on est accompagné, on est écouté par des personnes, si je peux dire des rôles modèles, effectivement on arrive à passer cette étape-là.
Ouais, parce que le corps, il y a ce qui se passe à l'intérieur et puis ce qui se voit à l'extérieur aussi.
Ouais, et moi j'ajouterais que les filles, elles sont touchées par la malédiction de Ève. Et c'est ce qu'on porte avant tout. C'est la raison pour laquelle il y a le poids.
C'est-à-dire le corps qui se transforme.
Le corps qui se transforme, exactement, le corps qui se transforme. Et il y a aussi ce côté où, parce qu'il se transforme, il devient un danger. Et c'est ça aussi le souci, c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là n'osent pas en parler. Parce que malgré le tabou, malgré les non-dits, c'est quelque chose qui leur est tombé dessus comme une chape de plomb.
Alors justement, il y a la sexualité. Écoutez le message de ce voisin posté sur WhatsApp.
Salut Emmanuel et toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Je réponds au nom d'Ibrahim Sow, élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'agriculture de Kies au Sénégal. La sexualité est peu parlée ici au Sénégal par les jeunes. Le lieu idéal pour qu'il en parle, c'est l'école, l'université ou bien même les lieux de rencontre. Mais quand quelqu'un parmi nous aborde cette sujet, automatiquement on le taxe de pervers. Parce que simplement le sujet est taboué dans la société. Même moi, quand j'ai des questions, je vais juste directement interroger Google, taper et poser ma question. Là, il y aura des plateformes où je peux avoir mes réponses. Certes, même si je ne serai pas satisfait, quoi qu'il en soit, j'aurai une réponse. Mais vraiment, on devrait améliorer ces dialogues entre jeunes, en parler beaucoup, beaucoup. Mais tant que le sujet reste taboué ici, dans la société, ça ne sera jamais facile.
Alors justement, comment améliorer ce dialogue? Est-ce qu'on a vraiment le mode d'emploi? Je vais vous lire d'autres messages aussi. Il y a un sujet tabou pour Benny qui est au Burundi, qui nous dit « En tant que jeune, je cherche à me débrouiller sans avoir recours à mes parents parce qu'ils restent attachés à la tradition qui bannit les discussions sur la sexualité en famille. » Même situation pour Ousmane au Burkina Faso. Difficile de parler de sexualité en famille, mais avec les amis, on aborde le sujet facilement. Ça rejoint ce que nous disait ce voisin à Thiès, à l'université, sur les campus. Là, c'est vrai, la discussion est beaucoup plus libre. Achille au Tchad nous dit « Mon père était ouvert sur tous les sujets possibles. Parfois, il faisait asseoir mes petites sœurs et il leur parlait de sexualité. Je me demande comment il a fait par rapport à notre maman, parce que pour elle, c'était vraiment tabou. Moi, ça ne me gêne pas de parler de ma sexualité à quelqu'un. On me trouve relou parce que je me moque de qui est là ou pas quand j'en parle. » C'est vrai ça, c'est pour les mères que c'est le plus tabou, Sandrine Lagertiga.
Alors moi, si je prends mon exemple, hein, moi j'ai eu une mère qui effectivement, petite anecdote, quand on était petit, quand on voyait par exemple à l'école, à la télévision, deux personnes qui s'embrassaient tout simplement, il fallait absolument changer la télé. Mais je pense qu'au fil du temps, effectivement, ça c'est une petite anecdote, mais on a vraiment eu à parler facilement d'elle. C'est elle qui m'a accompagnée, notamment dans mon changement avec les règles. C'était très important. Et je pense que si je peux rajouter quelque chose, on voit la sexualité, en tout cas en Afrique, uniquement par rapport au rapport sexuel. Or, la sexualité, c'est pas seulement ça. C'est aussi la santé de la reproduction. C'est vraiment tout ce qui englobe ce sujet-là. Et je trouve que c'est dommage, en tout cas, qu'on ait des mamans alors que des femmes, hein, qui puissent tout simplement nous accompagner dans ce processus-là.
Allez, moi, ce que j'ai pu observer quand vous parliez de la question des règles, c'est-à-dire que la mère peut en parler à l'aîné. Et après, ça va être l'aîné qui va être chargé d'en parler à ses petites sœurs.
Ouais. Alors, et à donc, la fin de la fratrie, le message, il est parfois un peu déformé.
Il est sans doute un peu déformé, mais c'est le souci. Mais aussi, quand on parle de la question de la sexualité, je pense qu'il y a deux parties quand il parlait des parents et il parlait des amis. Ce qui est frappant dans les témoignages dont vous nous avez parlé, c'est qu'il est plus facile de parler sexualité avec les gens de la même génération. Et quand il s'agit de parler de sexualité avec une génération, d'avant, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a une chose, je pense, qu'il ne faut pas nier, c'est que nous sommes dans des sociétés où la religion est très présente. Et donc, la sexualité...
Quelle qu'elle soit, d'ailleurs.
Quelle qu'elle soit. Mais la sexualité, elle est faite pour faire des enfants.
Oui.
Et pas pour, pour jouir... voilà, c'est ça. Elle est faite pour faire des enfants avant tout. Et oui. Donc, elle a une raison d'être.
Donald, qui est béninois, a posté ce message. Il dit « Moi, je pense que malgré toutes les sensibilisations qu'on puisse faire, on a peur du jugement des autres, des critiques et parfois des injures. » Ça rejoint ce
vrai.
Que disait cet auditeur à Thiès
qui
se fait traiter de pervers quand il aborde la question.
Et quand c'est une femme, c'est encore pire.
Salomon à Bangui, alors là aussi c'est un garçon, 22 ans. Alors lui, il est père éducateur dans une association de bien-être familial, donc en République centrafricaine. Alors là, c'est la discussion entre jeunes, hein, avec des éducateurs qui ont à peu près le même âge que les autres. On fait de la sensibilisation dans ces centres. C'est quasiment un enfer parce que pour certains jeunes, il n'y a rien d'intéressant à parler de sexualité en public, nous dit Salomon. Le mois dernier, dans un centre, certains jeunes nous ont écoutés et puis ensuite, ils nous ont demandé si nous-mêmes, on avait parlé de ce sujet avec nos propres parents. J'ai dû reconnaître que non. Du coup, j'en ai parlé avec mes frères. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement.
Mais il y a un tabou tellement fort. Oui, c'est ça. C'est le serpent qui se mord la queue, dans le sens où il y a des jeunes qui veulent en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est-à-dire que vous organisez pas une réunion en disant bah, on va parler de sexualité et tout le monde va venir et tout le monde va parler comme ça de manière très libre.
Ouais, il ne faut pas nier tout le monde.
Exactement, et aussi il ne faut pas nier l'éducation que ces jeunes ont reçue. Mais et quand à la maison on n'en parle pas du tout ou quand elle est condamnée, dans le sens où si vous avez des relations sexuelles hors mariage, vous entrez dans une autre catégorie, c'est très compliqué pour ces jeunes-là de dire on va venir en parler librement.
Ouais. Alors on a le message de Carlos, il nous dit « Moi je suis très à l'aise pour parler de mon corps et de sexualité, mais pas avec ma mère parce que j'en ai pas envie. Je me documente, j'écoute des émissions, je lis des articles. C'est un sujet qui me passionne et une de mes ex m'a même demandé des conseils. » Voilà. Bon, en tout cas, vous nous appelez bien évidemment au 33 1 84 22 71 71. Discussion avec Sandrine Lagertiga et Alimata Fofana. Ce matin, sur la chaîne nationale France Inter, c'est étonnant parce qu'ils ont annoncé le débat du soir au téléphone sonne, et c'était sur les couples qui ne font plus l'amour, un nouveau phénomène qui toucherait des gens de plus en plus jeunes, notamment aux États-Unis où on est dans une société assez libre, beaucoup de jeunes peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils disent qu'ils n'ont plus envie de faire l'amour. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout envie d'étaler sur la place publique, encore pire finalement que de dire qu'on est déprimé. Alors finalement, dans chaque société, on a un tabou sur la sexualité, sur le corps. Là,
mais c'est ça.
C'est là, que... c'est tabou de dire qu'on ne fait plus l'amour, par exemple, en Occident.
Oui, parce que ça rentre plus dans la norme.
Et oui,
je pense que le
on
souci,
pas épanoui,
là,
on a
voilà,
raté sa vie.
C'est qu'il y a un problème.
Oui, c'est qu'il y a un problème.
Alors là, voilà, c'est ça.
Alimata Fofana, vous avez grandi en France dans une famille sénégalaise. Quelle a été la place du corps dans votre éducation?
La place du corps, alors moi je commence mal parce que j'ai subi une excision, alors la place du corps dans un premier temps à 5 ans, et donc dans un premier temps le corps, pour moi il a été nié. Et donc à partir de là c'est compliqué de vivre avec son propre corps. Suite à cela, c'est-à-dire qu'il y a un vrai, j'ai dû faire un vrai travail sur moi-même pour accepter mon corps tel qu'il est, parce que je ne peux pas le changer. Et par la suite, je pense que c'est aussi... soi-même ne pas maltraiter son propre corps. Je pense que ça joue aussi là-dessus. Certes, on a fait du mal à mon corps, mais en analysant après coup, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai fait du mal à mon corps. Et après, vous ne pouvez pas lui demander
pourquoi
d'être totalement... Ben, je pense que c'est ce qu'on lui a inculqué. Le corps a une mémoire. Et quand il a été éduqué dans la violence, il a connu que ça, vous avez tendance à répéter ce même mécanisme. Et l'objectif, c'est de sortir ce mécanisme pour pouvoir vivre, j'allais dire, de manière un peu plus paisible.
Ça veut dire que vous-même, vous avez du coup nié votre corps, vous l'avez enfoui sous le tapis, comme on dit.
J'ai nié le corps et moi, j'ai mis plus en avant ma tête. J'avais le sentiment que mon corps ne m'appartenait pas et ma tête m'appartenait. Raison pour laquelle j'ai fait des études, j'ai énormément
vous
lu.
Vous êtes beaucoup construit dans la littérature.
Dans la littérature, exactement, dans les idées.
Finalement, dans l'histoire des autres.
Et à travers l'histoire des autres, et aussi même dans Mariama l'écorché vif, moi je l'ai vu après coup, c'est que ce sont des personnages sans corps. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il est aussi nié dans ce livre-là.
Et vous, Sandrine Nagertiga, comment vous avez été informée sur la sexualité, sur les règles? Alors, vous le disiez, votre mère vous a beaucoup accompagnée au moment des règles, même s'il y avait des tabous sur le corps quand même dans votre famille.
Exactement. Donc moi, la principale éducation qu'on a eue, en tout cas moi en tant que femme, c'était déjà la mère qui faisait ce travail-là, pour lequel d'ailleurs je tire mon chapeau, qui ne m'avait pas peut-être préparée, mais le moment venu, qui m'avait informée, qui m'avait apaisée, qui m'avait expliqué que c'était normal. Donc à l'issue de ça, effectivement, sur la sexualité, on n'en parlait pas parce que j'étais encore très jeune, j'étais pas encore femme selon elle. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un peu difficile, c'est encore tabou de parler vraiment de sexualité de façon ouverte. Mmh. Et du coup, c'est les gynécologues notamment qui est aussi le premier relais, le premier professionnel qui nous accompagne.
Familiale.
Oui, mais après c'est un peu difficile, mais en tout cas moi je sais que c'est le gynécologue qui a été vraiment la première personne qui m'a littéralement fait asseoir très jeune, hein, en me disant voilà, c'est ça la femme, voici le corps de la femme.
Et vous aviez quel âge alors à l'époque?
Je devais avoir peut-être 17 ans, 17-18 ans dans mon premier parcours. C'est pour cela d'ailleurs j'invite aussi beaucoup de jeunes filles à être suivies par les gynécologues dès qu'elles ont leurs premières règles, parce que c'est très important. Et au moins, on a déjà un premier conseil, une première écoute. Et à la suite, effectivement, donc, il y a la mère qui prend le relais, mais qui... c'est vrai que la sexualité...
Moi, je pose la question, est-ce que
compliqué.
Les mères doivent forcément parler de sexualité à leur enfant? Moi, je m'interroge là-dessus. Parce que derrière nos mères, il y a aussi toute leur histoire personnelle qu'elles portent.
Exactement.
Moi, je pose la question.
Moi,
est-ce qu'on peut pas trouver un autre moyen de parler de sexualité?
Le débat entre pairs, quoi, avec d'autres jeunes.
Avec d'autres jeunes, ou ça peut être parfois ça peut être des enseignants, ça peut être d'autres adultes. Mmh. Parce que je pense qu'on ne peut pas oublier aussi toute l'histoire de nos parents. Et il y a un élément très très important. C'est moi je vois par rapport à mes propres parents, c'est la question religieuse. Mmh. Vous n'allez pas parler de sexualité si pour eux la sexualité elle intervient uniquement après le mariage. Au moment du mariage, c'est très compliqué.
Alors effectivement, comment établir un vrai débat sur la place du corps pour les jeunes, avec d'autres jeunes du même âge, avec des adultes qui ne sont pas les parents, qui ne trimballent pas donc toute leur histoire personnelle, hein, et c'est vrai que ça rajoute finalement un problème, un tabou, un non-dit. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à une voisine, Merveille, qui nous appelle de Goma, à l'est de la RDC. Bonjour Merveille.
Bonjour Emmanuel.
Merveille, vous avez 22 ans. Alors vous, dans quelle situation vous êtes? Dites-nous par rapport à votre corps.
En fait, moi, je parle de mon corps à mon enseignant. Encore, il est mon meilleur ami. En fait, il n'a pas mon âge, il a plus que le double de mon âge.
Oui, donc il a une quarantaine d'années. Vous êtes, vous êtes étudiante, hein, c'est ça?
Oui, oui, je suis étudiante à L2 en temps.
Et comment vous abordez le sujet? Oui, vous parlez d'un enseignant, donc il s'agit d'un homme?
Oui, oui, un homme. Ben, on s'est mis ensemble, il y a toujours des questions à poser. Et surtout que je suis très curieuse. Je lui pose des questions et il me répond.
Quel type de questions vous posez?
Genre, est-ce que la première fois ça fait mal et...
Oui, parce que vous n'avez jamais eu de relation sexuelle, hein, Merveille, c'est ça?
Oui, je n'ai jamais eu.
D'accord. Et il vous répond de manière très, très simple, très transparente. Est-ce que...
Alimata, pourquoi un homme?
Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis surprise.
Comme pour la première fois, si vous voulez savoir si ça fait mal ou non, pourquoi vous interrogez pas une femme?
Et pourquoi lui? Parce que c'est votre enseignant, il est plus âgé que vous. Comment ça se fait finalement que vous êtes retrouvée à parler de ça?
Ben, au début, c'était difficile parce que c'est lui qui voulait d'abord qu'on soit amis.
Ah, d'accord. C'est lui qui voulait que vous soyez amis. D'accord.
Oui, il semble qu'il m'avait apprécié.
Mais il y a une relation de séduction. Il a envie de vous séduire, Merveille?
Non, non, parce qu'on a fait, on a fait plus d'une année d'amitié et il n'y a jamais eu cette idée. Il m'appelle ma fille, il appelle mon père.
Ouais.
Mais comme je suis très très ouverte devant lui.
Ça vous fait du bien d'en parler avec lui? Vous vous sentez soulagée? Il répond vraiment à vos questions?
Oui, ça me fait du bien, même si parfois il se moque de moi.
Il se moque de vous, pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu l'amour, c'est ça?
Non, parce que les questions, bon, notre siècle et même des enfants d'école primaire peuvent répondre à certaines questions que je pose.
Bah écoutez, il n'y a jamais de questions idiotes, hein, franchement, sur le corps et la sexualité.
Vous avez le droit, vous avez le droit de demander.
Merveille, comment vous voyez les choses, Alimata Fofana et Sandrine Nagertiga? Est-ce que le dialogue, le débat, il peut se faire, l'accès à l'information, il peut se faire finalement avec n'importe qui, y compris un enseignant qui a le double de son âge, qui a peut-être une arrière-pensée, peut-être une visée amoureuse?
Moi, je suis un peu troublée. Alors je me demande si est-ce que c'est elle, c'est en tête à tête, ou il y a d'autres personnes avec Merveille quand vous parlez de sexualité,
Merveille?
Ben on est seulement les deux.
Vous êtes que tous les deux.
Et c'est dans quel cadre? C'est dans la classe? C'est dans une salle de classe? C'est
non, pas en classe, parce qu'on est amis. Je dis au début qu'on est meilleurs amis. On se voit de temps, soit dans son bureau, on en parle, soit au restaurant.
Et comment vous arrivez à parler de sexualité quand vous êtes au restaurant? C'est-à-dire, par quel biais?
On essaie d'abord, on parle à basse voix, il y a toujours des sujets qui viennent.
D'accord, oui, quand on parle à voix basse, évidemment, on peut tout évoquer. Mireille, en tout cas, merci de nous avoir appelé. Merveille, merci de nous avoir appelé. Sandrine Nagertiga, Alimata Fofana, je vois bien que vous êtes un peu, un peu troublée. Je ne sais pas si c'est le meilleur confident, hein, finalement, pour accéder à des connaissances sur la sexualité, sur son corps, sur comment on se sent dans son corps, d'être avec une personne d'un autre sexe qui a forcément un pouvoir sur vous, puisqu'il est votre enseignant,
un ascendant. Ça c'est quelque chose quand même.
Je pense qu'il y a une certaine légitimité quand même à avoir à ce niveau-là. En tout cas, dans le cas de Merveille, c'est vrai que ça paraît un peu quand même peut-être le terme un peu fort, mais louche, d'avoir effectivement un professeur âgé du double de votre âge qui vous reçoit au restaurant ou dans d'autres lieux qui n'ont pas du tout ce cadre-là pour échanger avec vous sur la question de la sexualité. J'ai peur qu'il y ait une sorte de naïveté aussi à ce niveau-là, donc il faut faire très attention.
Oui. En tout cas, c'est un homme très patient, hein. Oui. Un an d'amitié à discuter de sexualité sans qu'il se passe rien.
Mais bon, il faut quand même être
néanmoins, prudence.
Oui,
Sandrine Nagartiga, vous, comment vous avez découvert l'ampleur du problème des règles en Afrique? Je dirais sur le plan social, sur le plan scolaire, hein, non pas sur le plan médical.
Alors donc oui, effectivement, c'est parti d'échanges avec des jeunes adolescentes, au Tchad lors d'un déplacement là-bas, où notamment effectivement elles m'ont expliqué par exemple qu'elles ne savaient pas calculer leur cycle menstruel. Elles se posaient plein de questions autour de la sexualité, des règles, et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un phénomène social qui était assez important. Et je suis partie aussi d'une histoire personnelle. Je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Il fallait briser le silence. Il fallait parler avec ces jeunes filles qui sont complètement en quête de réponses. Donc du coup, c'est parti de là.
À l'heure actuelle, on dit beaucoup que c'est un des facteurs de déscolarisation des filles, puisque chaque mois, les filles manquent souvent plusieurs jours d'école faute de protection hygiénique adaptée.
Exactement. Donc il y a notamment le plan international qui avait marqué que malheureusement en Afrique, il y avait une fille sur quatre quand même qui n'allait pas à l'école pendant ses règles. Et quand je parle de ça, je prends aussi l'exemple, notamment le triste exemple de la jeune Kenyane qui s'était suicidée à 14 ans parce qu'elle a été sous les huées de sa professeure, en plus une femme, qui s'était moquée d'elle parce qu'elle avait une tache de sang sur sa robe. Donc voilà, ce sont toutes ces questions malheureusement qui font que c'est tragique, et on a envie de dire qu'il faut que ça suffise et qu'on puisse trouver des solutions. Et je pense que pour ça, c'est déjà de briser le silence. Il faut qu'on parle.
Ce que vous dites là, l'exemple que vous avez pris sur la tâche, je pense que c'est extrêmement révélateur, dans le sens où on sait que les règles existent, mais là on a vu.
Oui.
Et comme on a vu, elle est condamnée, quoi.
Exactement.
Derrière, c'est ça qui est flagrant. Mais quand on reprend au niveau d'un point
de vue... Parce que le corps, même encore aujourd'hui, dans certaines sociétés et dans beaucoup d'endroits du monde, c'est aussi sale qu'une semelle de chaussures,
voilà,
finalement.
Exactement. Hein, mais dans les deux, moi je sais qu'en islam et dans le judaïsme, à partir du moment où la femme est réglée, dans le judaïsme, tant qu'elle n'est pas rentrée au mikvé, tant qu'elle n'a pas pris, elle n'est pas passée par le bain spirituel, l'homme n'a pas le droit d'avoir aucun contact avec elle. Et dans l'islam, quand la femme est réglée, elle ne peut pas prier et elle ne peut pas faire le ramadan. Ça veut dire qu'il y a aussi tout ce poids religieux lié aux règles. C'est la raison pour laquelle on cache, quoi.
Alors justement, vous parliez de la tâche et de cette possible honte qui fait que les filles préfèrent souvent rester à l'école plutôt que de prendre le risque d'aller à l'école. Je vous propose d'écouter un extrait d'un de nos reportages au Tchad. Raphaël Constant a assisté cet été à un débat public dans une école primaire de N'Djamena, l'école communale d'Abena, avec l'UNICEF et l'ONG École Saine, Ménage Sain, où il y a une trentaine d'élèves qui sont rassemblés pour un atelier de sensibilisation à la gestion des menstruations. Autant vous dire que parler de ces règles, déjà c'est difficile, mais devant toute la classe, y compris devant des garçons, c'est franchement pas évident.
Donc, les règles c'est quoi? Oui.
Les règles est un phénomène naturel qui se produit au niveau du système reproducteur féminin au cours d'une période de 28 jours.
Voilà, vous avez vu, certaines ont vu déjà leurs règles. Donc comment pour gérer vos règles menstruelles? Oui, vas-y.
Oui, pour gérer mes règles à moi, telles que quand je suis à l'école et que je sens que aujourd'hui je peux avoir mes jours, donc j'apporte mes serviettes à moi. Et au fait, si la maîtresse est là, je viens, je trouve la maîtresse, elle m'amène à la direction. Il y a des poignes qui sont là à la disposition de tous les élèves. Donc je le prends et j'attaille cela, j'enlève la jupe, je lave, je les mets au soleil afin d'être séché. Et après cela, je change directement les serviettes.
Vous les garçons, en classe, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez vu votre camarade taché, quel est votre rôle?
Bon, selon moi, si l'une de mes camarades a eu ses règles, je vais m'approcher d'elle et je vais la dire, ma soeur, vous êtes tachée, allez-y à la direction et peut-être la directrice va la trouver une solution, elle va l'aider à aller aux toilettes de s'échanger.
Même à l'école, nos élèves, nos garçons même là, on les a formés de ne pas se moquer des filles. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on porte les serviettes hygiéniques, il faut rentrer ou bien il faut faire cours? Oui.
On va revenir en classe pour suivre les cours avant de rentrer.
Oui, on ne doit pas rentrer. Donc les enfants ne restent pas à la maison. Donc c'est déjà une bonne chose. Nous vous remercions beaucoup.
Ouais. Bon, bah, c'est pas simple hein, de discuter de ces questions-là, Sandrine Nagertiga. Vous, comment ça se passe sur le plan, sur les réseaux sociaux? Comment vous avez avancé dans ce projet Réglé comme elle?
Bah déjà, je suis très contente en entendant donc le reportage, de voir qu'il y a des jeunes garçons effectivement qui ont aussi pris la parole par rapport à ça et qui ont donné même des solutions vis-à-vis de leur position. Alors pour parler de ce sujet, bah, ça a été très simple. Moi qui suis donc très engagée sur les réseaux sociaux, j'ai dit qu'à un moment donné, il faut qu'on y aille, qu'on se lance et qu'on voit ce que ça va donner. Mmh. Donc j'ai eu la chance d'avoir effectivement des collectifs de femmes influentes ou moins influentes qui m'ont accompagnée, qui ont pu relayer au travers d'un hashtag réglé comme elle. Donc qui a permis déjà d'avoir des retours de personnes qui n'ont pas hésité à donner leurs expériences, leur vécu, à partager des exemples de personnes autour d'eux. Et donc maintenant, voilà, c'est parti de là. Et maintenant, on essaie de passer à un autre cap pour effectivement avoir des solutions plus, plutôt des engagements locaux. Parce que c'est bien, les réseaux sociaux, mais il faut aussi qu'il y ait vraiment la trace au niveau local. Donc c'est parti un peu de ce côté-là.
Il y a des freins aujourd'hui?
Sur les réseaux sociaux ou de façon...
Non, passer à l'action pour qu'on passe du débat sur les réseaux sociaux au débat dans la vraie vie, c'est-à-dire dans une salle de classe, dans une salle d'association, d'une commune, notamment avec des hommes et des femmes en chair et en os.
Bah, les freins, oui, je pense qu'ils seront toujours là. Notamment, ça passe déjà par l'image que les gens ont de ces règles-là. Donc effectivement, si on a des personnes qui le voient toujours comme quelque chose de sale et qui ne veulent absolument pas prendre part à ces débats-là, ça va être très compliqué. Mais j'ai envie de dire que c'est en persévérant qu'on y arrivera. Donc, petit à petit, ça ne va pas se faire d'un point de vue magique.
Et moi, j'ajoute qu'on a une part, nous avons chacune une part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que les jeunes filles là, dont on parle, à leur tour, elles vont devenir mères. Qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs filles? Je pense que c'est aussi ça. Et je pense que ce n'est pas anodin. Dans le reportage, on a vu que c'est une femme qui parle de règles. Ce n'est pas un homme. Et je pense que, d'un point de vue politique, ceux qui tiennent les reines, bien souvent, ce sont des hommes.
Exactement.
Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça a peut-être du mal à...
Mais dans ce cas de lutte, je pense que le changement viendra d'en bas.
Ouais.
Je pars toujours de ce principe-là, parce qu'effectivement, ce sont ces hommes-là qui tiennent les règles, mais on a ces femmes-là qui sont peut-être en dessous, mais qui arrivent déjà à avoir de l'influence dans leur petite communauté. Et petit à petit, je pense que le changement viendra d'en bas.
Vous dites ça parce que vous avez peur que le débat il soit confisqué politiquement ?
Est-ce que ce serait... Je pense pas, non, parce que c'est une question de santé publique. Donc je pense que même au niveau de la politique, hein, ces gens-là sont touchés par ces sujets-là. Donc je pense que non, c'est...
Mais comment
y a pas
ça,
de
ces
peur.
Gens-là sont touchés par ce sujet-là? J'aimerais bien que...
Bah, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un du gouvernement sait très bien, par exemple, que la santé publique, c'est très important hein, pour les concitoyens. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils devraient quand même s'y intéresser et trouver des solutions pour pouvoir avoir une influence sur la partie socio-économique.
Ben moi, j'y crois pas.
Alors, il faut y croire.
Ali Mata Fofana, vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez été excisée à l'âge de 5 ans, vous parlez maintenant beaucoup, vous circulez, vous faites des conférences, vous dialoguez beaucoup avec des jeunes sur la question de l'excision. Est-ce que ça peut être abordé comme un sujet dépolitisé aujourd'hui, l'excision, puisque...
Non, moi, je ne crois pas du tout. C'est politique. L'excision.
On a un affrontement aujourd'hui tout le temps entre les conservateurs religieux qui se posent en défenseurs des valeurs du pays et puis en face des réformateurs qui sont accusés d'être à la solde de l'Occident.
Exactement.
C'est, ça,
c'est pour ça que c'est une question politique, la question de l'excision. Et on a bien vu, je crois que c'était au Mali quand il y a eu une réforme qui a voulu être faite sur la famille. Et là, on a vu le poids. Des religieux. C'est-à-dire que même pour les hommes politiques, les religions ont un poids. Et donc, c'est ça qui pose problème. C'est pour ça que c'est une question profondément politique. Sinon, ça aurait fait bien longtemps que cette question-là aurait été réglée.
Vous, Sandrine Nagertiga, vous dites justement qu'il faut dépolitiser le sujet si on veut avancer, c'est ça?
Moi, je pense que oui. En tout cas, sur la partie des règles, parce que malheureusement, je ne maîtrise pas tous les sujets, mais sur la partie des règles, il faut vraiment dépolitiser. Pardon. Et il faut que les personnes s'intéressent à ça. Voilà, on a besoin de parler de ça. Comme je disais, c'est une question de santé publique, de reproduction, et on en a vraiment besoin.
C'est pour ça qu'il faut que chaque femme prenne son destin en main.
Et l'excision aussi, c'est une question de santé publique.
Oui, c'est clair. Sûr, ça, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il faut que chaque femme prenne leur destin. Parce que sur la question de l'excision, c'est quand même les mères qui amènent leurs petites filles. Moi, je dis à l'échafaud, c'est les mères qui amènent. Et pourtant, elles-mêmes, elles ont subi l'excision. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on répète ce schéma-là? C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que chaque individu soit face à ses propres responsabilités.
Justement, on va donner la parole au standard, on y retourne. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Comment mener des débats, déverrouiller la parole sur la question du corps et des jeunes? Aminata est en ligne avec nous. Bonjour Aminata.
Bonjour à toutes les voisines.
Aminata, soyez la bienvenue. Vous nous appelez de Côte d'Ivoire, vous êtes à Bouaké, c'est ça?
Oui, je suis à Bouaké. Oui.
Alors vous êtes dans la génération d'au-dessus, hein, par rapport aux jeunes dont on parle.
Oui, j'ai la quarantaine.
Ouais. Comment vous voyez la question aujourd'hui? Comment vous en discutez avec les jeunes?
Bon, j'ai voulu en fait même intervenir parce que moi aussi, c'est clair qu'avant d'avoir 40 ans, j'ai eu aussi ma jeunesse. Et j'ai eu ce lien très fort avec mon père. C'est avec mon père que j'ai tout appris. Mmh. On est 4 enfants, 3 garçons et je suis la seule fille. Et normalement, je devais créer ce lien avec ma mère, mais je n'arrivais pas du tout. Mmh. Donc c'est avec mon père que j'ai tout appris, avec même les menstrues. La première fois, j'ai dit à mon père, écoute, je suis blessée, il y a du sang qui coule sur mes cuisses. Mmh. Et c'est comme ça, il m'a expliqué que voilà, ce sont les menstrues. C'est lui qui a acheté les premiers cotons. Mmh. Et pareillement, par rapport à mon excision, c'est avec mon père. Avec ma mère, je n'arrivais pas du tout à parler, donc ne me parlait même pas de sexualité. C'était un sujet tabou avec ma mère. Mmh. Et c'est jusqu'à l'âge, on va dire, de 28 ans que j'ai pu m'exprimer parce que j'ai eu une première expérience de sexualité désastreuse. Mmh. Voilà, parce que généralement, on te dit que la femme excisée est pareille à une bouteille de champagne qui ne pétille pas, une sauce sans sel, une maison sans gardien. Donc, quand tu finis par entendre tous ces propos, tu n'es même plus à l'aise de te confier. Mmh. Et c'est l'écriture qui m'a beaucoup aidée à travers un livre témoignage, le travail communautaire. Et moi, j'ai décidé, par exemple, de donner la parole aux jeunes.
Aminata, juste une question, oui. S'il vous plaît, Aminata, quand vous avez dit que vous avez parlé de votre excision, l'excision que vous avez subie à votre père, c'est bien cela?
Oui.
Et donc,
oui.
Votre père n'était pas au courant de l'excision que vous aviez subie?
C'est votre c'est votre mère. Vous avez été excisée à l'âge de 8 ans, hein, c'est ça?
À 8 ans, en fait, c'est ma grand-mère. Ah. J'ai juste allé pour les vacances scolaires parce que mon père était contre. Il m'a dit que ma mère a été excisée, donc il n'en voulait pas. Mm. Et j'étais juste allée pour les vacances scolaires. Et puis, voilà, à 5 heures du matin, on était 12 filles. J'étais la dernière. Malheureusement, celle qui me suivait est décédée des suites d'une hémorragie. Et puis, on a été excisée. C'est après que mon père a été averti. Mais et il a fait un an, il ne parlait pas à ma grand-mère.
Pendant un an, il n'a pas parlé à votre grand-mère? Et votre mère, quand elle a su ça, quand elle a su que vous aviez subi une excision, comment elle a vécu ça? Votre père était en colère et votre mère?
Ma mère était en colère, mais c'est quelqu'un, je me dis que c'est par rapport à son éducation. Ma mère était beaucoup effacée, mais elle était peinée parce que moi, j'ai eu tellement de conséquences et j'ai failli laisser ma vie et je n'arrivais pas du tout à en parler. Et c'est quand, à l'école, on a commencé à apprendre, parler de l'anatomie de la femme, je trouvais qu'il y avait une cicatrice que les autres n'avaient pas et je n'arrivais pas à comprendre. Mmh. Et ça m'a beaucoup torturée parce que j'avais du mal même à toucher mes organes parce que j'ai eu l'impression que mon corps ne m'appartenait pas.
Ouais, c'est ça.
Et qu'on avait vraiment décidé de certaines choses. Et c'est l'écriture qui a été mon échappatoire.
Mais vous vous rendez compte quand on parle du corps? Là, c'est très intéressant ce que dit Aminata. Ça veut dire qu'à travers l'acte de l'excision, un autre se réapproprie son corps. Et donc, on a le sentiment que notre propre corps ne nous appartient pas.
Et Aminata, voilà. Vous le disiez, bon, on comprend à travers votre témoignage que forcément, vos relations avec votre mère ont été plombées, hein, parce que probablement qu'il y a eu aussi de la culpabilité de la part de votre mère, enfin que cette affaire d'excision a été au centre de vos relations avec elle. Mais quand vous dites que vous avez fait tout un travail personnel et communautaire, qu'est-ce que ça a été, ce travail communautaire?
Je me suis engagée, en fait, j'ai décidé, normalement, je voulais devenir professeur des lettres modernes, et j'ai décidé de rentrer dans une ONG, d'affronter, de rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu ça, surtout des jeunes. Mmh. Et avec ces personnes, on a commencé à parler. J'ai vu que je n'étais pas seule, qu'il y a d'autres personnes qui avaient traversé ces problèmes, et je me suis dit, bon, je vais écrire, je vais déverser ma rage, je suis d'une feuille. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait sortir mon livre « Le couteau brûlant », Ça a été un livre témoignage et je suis allée plus loin. J'ai dit, mais il faut donner la parole aux jeunes.
Est-ce que justement aujourd'hui, cette parole, elle se déverrouille chez les jeunes aujourd'hui, à la faveur aussi des réseaux sociaux, d'Internet?
Oui, mais les réseaux sociaux jouent un rôle énorme parce qu'aujourd'hui, le fait de briser le mur du silence autour du sexe, parce que le sexe reste un sujet tabou. Et moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, mon fils a 18 ans. Je vous assure que il n'arrive même pas à parler de sexualité avec moi ni avec son père, mais il parle avec mon grand frère.
Oui, oui. Bah, finalement, c'est très bien, non? Oui. Que votre fils ne parle pas de sexualité avec vous, et c'est pas tellement un problème s'il en parle avec son oncle.
Il en parle avec une. Mais voilà, donc je suis contente parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'en parlent pas.
Vous lui avez raconté votre histoire, il la connaît, votre histoire, Aminata, votre fils?
Oui, c'est mon premier lecteur et je voulais dire un grand merci à la grande voisine Alimata qui est sur le plateau et l'autre voisine parce que ce
Sandrine
sont des sujets, on va dire, tabous,
ouais.
Mais le fait déjà de susciter des discussions autour de ces sujets avec
comment avancer dans le débat, comment faire en sorte que ça dépasse les réseaux sociaux, qu'il y ait des discussions, qui soient des discussions saines où chacun peut exprimer un attachement à la tradition, peu importe, mais en tout cas qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des débats.
Je sais que sur la question de l'excision, moi j'ai parlé à ma mère. Alors vous imaginez le tabou, il est monstrueux dans notre famille, il est vraiment énorme. Et il y a une amie à ma mère qui est venue la voir et qui lui a dit « On voit ta fille à la télé, elle parle d'excision. » Elle va à la télé, elle parle d'excision. Alors vous imaginez le truc. Et ma mère a dit « Ah bon, tu fais ça ?» Je dis « Oui, je fais ça. » Et je lui dis « Je continuerai tant qu'il y aura une petite fille qui subit l'excision. » Et donc j'ai commencé à parler du corps. Mais c'est-à-dire que moi, vous n'arrivez pas comme ça en disant « Ouais, la sexualité, il faut jouir et tout. » Non, vous n'arrivez pas comme ça. Vous arrivez à petits pas dans le sens où il faut qu'elle fasse le lien entre sa tête et son corps. Et souvent, c'est ce qui frappe, c'est qu'il y a une dissociation qui est faite entre les deux. Et déjà, essayer de lier les deux et de montrer que le corps, c'est pas un être différent de soi. Je pense que c'est déjà ça. Oui.
Et bien justement, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment parler avec sa tête de son corps? 33 1 84 22 71 71. Merci beaucoup à vous, Aminata, de nous avoir appelé de Bouaké. Vous savez, vos appels sont tellement importants. On donne la parole à Aristide qui nous appelle de Lomé, qui a 25 ans. Bonjour Aristide.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute, Aristide.
Sexualité, on en parle avec maman depuis tout jeune.
Oui.
Et le fait marquant, c'est qu'à mes 16 ans,
oui,
elle m'a fait venir dans sa chambre, elle m'a offert un paquet de préservatifs.
Mm-hmm.
Ouf! Timidement, j'ai dit non.
Waouh, comme vous dites.
Timidement, j'ai dit non, maman, j'en veux pas et tout. Et tu me dis, ok, d'accord, c'est bien. Mais elle l'a déposé à un endroit où tout le monde pouvait le voir.
Mm-hmm.
Alors, après, on s'est tous servis, mes frères et moi, je suis d'une fratrie de trois garçons. On s'est tous servis, elle a remarqué que c'est fini, elle a jeté tranquillement la boîte sans rien dire à personne. Et puis voilà, déjà tout petit, on parle avec elle quand on a besoin de quelque chose, on dit « va demander à papa ce qu'il va demander à papa ça ». Donc on parle avec elle de tout, mais pas vraiment avec le père. Pas parce qu'il est coincé ou qu'il est traditionnel et tout, mais c'est plus facile avec maman.
Mais ça, dans une famille, il y en a toujours un qui a ce rôle-là, et ça ne veut pas dire que tout le monde doit tenir ce rôle-là. Mais par rapport à d'autres familles, vous diriez que votre famille est un cas un peu à part ou pas?
Oui, dans mon quartier, moi je dirais que mes parents sont très ouverts. Déjà, entre jeunes, on parle tout le temps de sexualité.
Oui.
Déjà, adolescent, c'était le sujet central. Mais les parents des autres, moi, je les remarquais, je trouvais qu'ils étaient un peu coincés, je dirais, parce qu'ils n'en parlaient jamais. Bien qu'ils voyaient que les enfants grandissaient, les filles, c'était les seins et tout, les garçons, il y a la barbe, la voix qui change. Mais ils n'en parlent jamais. C'était un sujet carrément tabou. Mais ils étaient, je dirais, conscients de ce qui se passe et tout. Mais bon.
Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, Aristide. À savoir, avez-vous des sœurs?
J'ai une grande sœur, mais elle n'a pas vraiment vécu avec nous, donc mais j'ai une grande sœur quand même.
D'accord. C'était plus entre frères?
Oui. On est trois frères d'une même mère, et donc...
Oui, vous...
oui c'est... Non, mais comme quoi, il peut y avoir un dialogue aussi assez facile avec le sexe opposé. Hein. Le père peut dialoguer de sexualité avec sa fille, inversement, les fils avec leur mère.
C'est l'inverse de...
Y a pas de...
Exactement. Ouais, et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de sexualité, au fait, on a l'impression que plus vite on éduque l'enfant, et plus vite il ira faire ses, entre guillemets, bêtises dans la tête des parents.
En tout cas, moins le sujet est difficile à aborder, parce que c'est vrai que chez l'enfant, il n'est pas compliqué à aborder. Donc,
alors
c'est
qu'au contraire, hein, au contraire, si justement on éduque l'enfant en lui disant « attention, il y a ci, il y a ça », bah, ça poussera peut-être moins à aller voir par lui-même. Donc c'est aussi cette image qu'on a.
Je voudrais vous lire aussi une réaction. Merci beaucoup à vous, Aristide, de nous avoir appelé. Et puis bravo à votre maman. réaction de Sitafa, qui est un voisin au Sénégal. Sénégalais en France depuis plusieurs années, nous dit « Les femmes ne sont toujours pas capables de dire non face à la pression de la famille ». Évidemment, il parle de l'excision. Il faut éduquer la famille, mais aussi la société et les hommes.
Oui,
c'est un homme qui nous envoie ce message.
Et les hommes, il a raison.
Et puis, on est en ligne également avec Yannick, qui nous appelle de Kisangani, dans le nord de la RDC. Bonjour Yannick, soyez le bienvenu. On vous écoute.
Allô
oui.
Bonjour la RFI, bonjour les voisins.
Bonjour Yannick, vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Vous êtes animateur radio et vous abordez ces sujets-là dans votre émission, je crois, à Kisangani.
Oui, évidemment, je suis animateur radio, comme vous l'avez dit. J'anime une émission qui porte sur l'amour et qui encadre beaucoup plus c'est la jeunesse, où intervient normalement une thématique qui cible beaucoup plus le point travaillant sur l'amour entre le jeune fille et garçon. Et je vais dire que d'emblée, je dois dire que la sexualité semble être une hors question dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de sociétés, à travers le monde, beaucoup plus que dans les sociétés africaines. Mmh.
Que vous disent les jeunes quand ils appellent dans l'émission?
Oui, évidemment. Donc, lorsque j'anime une émission qui parle beaucoup plus sexe, parce que des fois je suis dans des thématiques qui reviennent sur la place du sexe dans l'amour.
Ouais.
Et le jeune, apparemment, ils ont beaucoup de soucis, n'est-ce pas, de bien vouloir intervenir dans cette émission. Ouais. Ils ont difficile à donner des identités. Donc, étant donné que l'émission est beaucoup plus suivie dans toute la ville, ils préfèrent cacher de l'identité. Et après l'émission, je vois que les appels jaillissent de partout. Les gens veulent m'appeler, savoir qu'est-ce qu'il y a, s'il faudrait que l'on se rencontre, que l'on se parle sur la sexualité. Est-ce qu'il faudrait que l'on m'appelle en prison pour que le sexe est en développé, vous voyez. Donc, ça fait comprendre que, étant donné qu'ils ont grandi société dans une famille où ils n'ont jamais eu le temps de causer avec leurs parents. Cette question a été prise pour mes tabous.
Et vous, Yannick, parce que vous avez 23 ans, c'est bien ça?
Oui. J'ai 27 aujourd'hui.
À 27, d'accord. Et comment vous avez grandi aussi avec ce tabou du corps, de la sexualité?
Je ne dirais pas du tout, pas du tout, parce que chez moi, au moins, je suis un grand frère. Et le temps frère, il était beaucoup plus cool avec moi. Hein. Beaucoup de problèmes, mais surtout que comme il était déjà défaillé, il me disait des choses qu'il faudrait bien mettre en tête et qu'il faudrait enlever certaines de confusions que les jeunes ont en tête. Et j'ai eu la chance de ne pas beaucoup grandir avec le parent, papa, maman. J'étais sur le grand frère qui m'a beaucoup édifié.
Mais je pense qu'il y a...
Alimata Fofana.
Quand vous parliez de la question de la jeunesse, moi je le voyais quand j'enseignais... certains jeunes gens ont tendance à copier ce qu'ils voient à la télévision. Ils miment ce qu'ils voient à la télévision. On voyait même des jeunes filles, il y a eu des agressions sexuelles dans certains établissements que j'ai fréquentés. Et quand on discutait avec ces jeunes gens, c'est qu'ils reproduisaient ce qu'ils voyaient à la télévision. Et donc, le manque d'information.
On peut même dire aussi qu'on s'informe grâce à la pornographie.
Oui, j'ai pas osé quand même
les
sites internet.
Voilà, les plateformes internet, les plateformes, ce sont les plateformes les plus consultées au monde.
Oui, voilà, exactement. Et donc, c'est une sexualité totalement, j'allais dire, plus que fantasmée. C'est totalement...
Elle
est totalement fausse. Et le problème, c'est que... La non-information fait que ces jeunes-là vont s'attacher à ce qu'ils ont plus facile. Parce que là, Internet, vous pouvez être seul.
Exactement.
Parce que ce que vous n'osez pas dire de peur, par honte, là, Internet vous permet complètement d'y aller en roue libre. Quoi.
Yannick, jusqu'où ça peut aller les discussions anonymes à l'antenne chez vous dans votre émission qui s'appelle Cœur brisé, qui n'annonce pas forcément d'ailleurs qu'on va parler de la sexualité. Ça peut... Mais jusqu'où ça peut aller?
Oui. Oui, c'est sûr, évidemment, ça pose des soucis parce que juste après l'antenne, je disais qu'il y a des appels, les gens m'appellent, ils veulent que mon enfance chrétienne, et ils me disent qu'ils se sentent beaucoup plus sécurisés lorsque c'est en privé. Et au lieu d'appeler à, donc à l'antenne libre où chacun va écouter, parce que je dis, bon, je peux intervenir à la radio demain à la fac, si je veux dire, on va m'indexer. Parce que vous trouvez que la question est prise comme un tabou. Alors, ceux qui me disent beaucoup plus, je vais défocaliser les avis des uns des autres. Quand je reçois une fille, qu'est-ce que me dit Diane, tu vois, il y a peu, je connais un gars, et tu l'ont bien donné.
Et c'est ça, mais la peur d'être reconnue le lendemain sur le campus, ça prouve bien aussi que la discussion sur le campus n'est pas aussi libre que ça, hein, en tout cas. Merci beaucoup Yannick de nous avoir appelé. Un message qu'on me fait parvenir, Charles, qui a 22 ans, qui est à Lomé. Il dit, moi je suis gênée pour aider ma petite sœur à comprendre comment compter les jours pour ne pas tomber enceinte. Oui, on peut comprendre, Charles. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Charles ? Effectivement, est-ce que c'est au grand frère d'enseigner la reproduction à sa petite sœur ?
C'est à l'école, ça.
Oui, normalement, c'est à l'école. Donc, il y a les cours de SVT, en tout cas de ce que moi je sais, qui ont permis d'apprendre ça. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut qu'il y ait des professionnels de la santé qui puissent donc donner des cours, sensibiliser, informer. Je ne sais pas, parce que malheureusement, dans certaines écoles, ces personnes-là sont quasiment inexistantes. On a la chance ici, en France, d'avoir des centres de planning familial aussi, donc qui permettent effectivement d'avoir...
Il y en a de moins en moins. On coupe les budgets.
Ouais, bon, en tout cas, l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires en France, il y en a pas. Inexistant, c'est un vrai problème. Ouais.
Donc pour un grand frère, je pense, c'est très difficile, c'est très compliqué. Généralement, c'est soit la grande sœur ou encore une fois la mère ou la tante. Mais bon, voilà, ce sont des questions malheureusement qui sont assez difficiles. Et je pense qu'effectivement, c'est pour cela que les professionnels de santé sont les plus adaptés à aider en tout cas à compter son cycle menstruel.
Et je pense que quand vous parliez de professionnels de santé, il faut aussi que les professionnels de santé ne soient pas aussi dans le tabou ou dans une idéologie qui fait qu'on fait comme si ça n'existait pas et la sexualité est uniquement pour
reproductive,
la reproduction.
Auquel cas,
exactement. Parce que là, il y a aussi ce souci-là.
Bah, l'exemple du chat, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, voir un gynécologue, immédiatement, on vous étiquette « je suis enceinte » ou « je ne suis pas enceinte ». Donc, c'est très difficile de dire qu'on va juste, effectivement, pour se faire suivre. Donc, oui, c'est une question de tabou à briser.
Comment vous avez, réagi toutes les deux à cette condamnation de cette journaliste marocaine, Hajar Aissouni? 1 an de prison, accusée d'avortement illégal. Le gynécologue est également condamné, l'anesthésiste, la secrétaire, le conjoint, le petit ami. Au-delà de la question du droit humain, le sujet, il est très politisé en arrière-plan aujourd'hui. On sait qu'elle enquêtait sur le malaise social dans la vallée du Rift, sur la pauvreté, sur les manifestations anti-gouvernement. Alors, finalement, aujourd'hui, vous, comment vous réagissez en tant que femme à ce qui se passe dans un pays si proche du nôtre ?
Moi, j'ai été dans un premier temps surprise de la part du Maroc, qui a eu cette condamnation de... Elle est journaliste, je crois.
Tout à fait, de
cette journaliste. Et ce qui m'a frappée, moi j'ai regardé aussi les commentaires des uns et des autres, une grande partie des personnes disent qu'elle a fauté et donc il faut qu'elle soit punie. Moi je crois profondément que c'est vraiment... c'est une histoire individuelle, on ne peut pas porter un jugement là-dessus. Cette femme a choisi de se faire avorter, elle doit avoir toutes les raisons du monde, mais que l'État intervienne là-dedans, ça montre bien que c'est encore une question extrêmement politisée, et ce qu'il ne faut pas oublier que pour certains, c'est peut-être une réaction à ce qui se passe en Occident. Et donc, ils prennent le contre-pied et on peut aller très très loin.
C'est ça, au-delà de la privation d'une liberté individuelle, c'est toute la question de la politisation du corps des femmes. Donc c'est la double peine finalement ou pas?
Oui, mais ça a toujours été comme ça.
Oui.
Le corps.
Je suis complètement d'accord.
Le corps de la femme est un objet politique. Je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais le corps de la femme, c'est ça. On a vu, serait-ce que les débats sur la question de la pilule. Souvent en plus, on voit que ce sont les hommes qui montent au créneau sur ces questions-là. Je pense que ce n'est pas anodin non plus. Mais c'est clair que c'est une question profondément politique. Il y a des enjeux très importants derrière la question de la liberté du corps de la femme.
Eh ben merci, ça sera le mot de la fin, en tout cas à méditer. Merci à vous, Alimata Fofana. Vous publiez Mariama, l'écorché vive aux éditions Cartala. C'est un très beau roman. Sandrine Nagertiga, réglée comme elle. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, on parlera éducation comme chaque vendredi. RFI.